Focus. Gros plan sur les artistes des Alpes du Sud. Gilles Berger. Focus. L'art en grand.
Bonjour amis auditeurs de RCF Alpes-Provence. Nous avons la joie pour ce nouveau focus de recevoir François-Régis Lemonnier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un artiste peintre, surtout il faut dire artiste.
Eh oui.
Sinon on pourrait confondre. Vous hésitiez entre la musique et la peinture.
Voilà, c'est ça. Eh bien, j'ai essayé pas mal d'instruments. J'ai essayé le violon, le piano, la batterie.
La guitare.
La guitare, voilà. Et puis, en fait, c'est pour ça que j'insiste sur artiste peintre, parce que le côté artiste prévaut sur la manière de s'exprimer, en fait.
Ouais, sur la matière en elle-même, quoi.
Et voilà. Et ben, la peinture, c'est venu assez sur le tard, hein. Je devais avoir 20 ans, à peu près. Et puis c'est venu assez rapidement. Je me suis développé très vite. Et puis très vite, l'inspiration a pris une part importante pour la création.
Alors, vous m'avez dit que vous aviez beaucoup plus à raconter en peinture qu'en musique.
Disons que ça s'est révélé plus facile pour moi, ouais.
Et c'est vrai que j'ai vu vos tableaux. Les sources d'inspiration sont diversifiées. Notamment, c'est quand même la principale source, c'est que c'est centré sur l'homme et son environnement.
Voilà, c'est ça. C'est un long travail qui a cheminé pendant des années. Hein, ça a maturé en même temps que moi. Et actuellement, voilà, c'est ça. C'est l'homme dans son environnement, la place qu'il prend, la place qu'il a à prendre et comment on le perçoit dans son environnement. Donc voilà, là, c'est le travail actuellement. C'est le travail de tout petits personnages. Pour montrer leur humilité, parce qu'on les voit presque plus, hein. Ils sont dans des grands espaces, vides ou pas, ils sont mis en scène pour qu'on les oublie, mais pas vraiment, ils sont toujours présents, on les distingue, on les voit, on l'oublie pas, mais surtout, ils prennent pas toute la place.
Et ils sont devenus petit à petit de plus en plus petits. Au départ, ils étaient beaucoup plus grands.
Voilà. Au début, c'était vraiment centré sur l'homme. Source d'inspiration, ça venait un petit peu comme ça venait, quoi. La symbolique de chaque tableau, on la découvre une fois que le tableau est fait. Mais au moment de la création, c'est souvent inspiré soit de faits d'actualité ou de choses qu'on a envie de raconter, qui nous ont, comme tous les artistes, des choses qui nous ont parlé, qui nous ont touchés.
Oui, notamment le rapprochement des peuples et cette espèce de forme d'exode qu'on sent à travers vos tableaux.
Voilà, ouais, c'était une période il y a 5-6 ans. Là, c'était vraiment quand ma peinture avait fait une bonne maturation. Voilà, j'avais besoin de représenter parfois des tableaux un peu dans la souffrance parce que les exodes, c'est des choses jamais évidentes. Mais c'était quelque chose que je voulais mettre en scène parce que je voulais en parler, quoi. Et il y avait des thèmes comme ça, l'exode, parce que ça m'avait touché. C'était sur un grand format qui faisait 2 mètres sur 2 mètres, donc c'était vraiment... On les oubliait, quoi. Ils étaient en train de partir d'un monde à l'autre. Et puis après, la solitude, les rapprochements, ce genre de symbolique, quoi, ça me parlait beaucoup, oui.
Ouais, voilà. Moi, personnellement, j'y vois du sable. J'ai tendance à y voir des Touaregs et du sable. En réalité, pas du tout. C'est une illusion d'optique. Et c'est plutôt une peinture de terre. Vous mettez beaucoup de pigments naturels.
Voilà. Dans mon travail, il y a quelques années, qui a évolué encore, j'ai travaillé beaucoup avec des pigments naturels, des terres de sienne naturelles, terres de sienne brûlées. Je faisais ma peinture moi-même, si vous voulez, donc avec un mélange de liant, de pigments, d'eau. Je travaillais beaucoup avec la main parce que les pigments, c'est très manuel, ça se broie, ça se travaille très bien à la main. Et donc mes couleurs, j'ai préparé moi-même. Et comme elles étaient vraiment à base de pigments avec des lourdes charges pigmentaires, ça faisait une peinture qui, une fois sèche, on a l'impression que c'était du sable et que c'était, c'était de la terre, c'est brut.
J'ai pas tout à fait tort. Mais il y a aussi des choses qui frappent l'œil, c'est ces feuilles d'or et ces plaques de zinc.
Voilà. Ouais.
Alors ça, d'où est-ce que ça vient ?
Ah, ça, peut-être que c'est mon père quincaillier. On aime le métal dans la famille. Non, je dirais plus sérieusement que le métal, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Et ça fait 3 ans que je suis dans les Hautes-Alpes. Avant, j'habitais à Saint-Malo en Bretagne. Et un de mes passe-temps, c'était de faire les chantiers où on restaurait des vieilles toitures de malouinières. Et ces vieux zincs complètement oxydés par le temps, par l'air iodé et salin, ça faisait une matière magnifique à travailler. Donc ces restes de toiture complètement oxydés par le temps, je m'amuse à les découper, les brosser, les marteler, puis les intégrer au tableau, mais j'y apporte presque rien, quoi. C'est brut.
Ouais, voilà.
Et c'est très joli.
Mais on ressent ce côté brut, ouais, c'est vrai.
Oui.
Alors vous dites que en définitive, vous n'avez pas de début pour un tableau, que ça se fait instinctivement, à l'intuition.
Oui.
Et par contre, vous dites quelque chose de formidable, c'est qu'il est terminé quand il vous parle.
Ouais, c'est ça. Ouais, dur de choisir quand le tableau est terminé, parce on connaît tous le mieux et l'ennemi du bien. Donc, quand j'ai des tableaux, j'estime qu'ils sont prêts à sortir de l'atelier, je les sors de l'atelier et puis je les garde dans mon environnement, dans mon salon, je les regarde, je les prends en photo. Et tout de suite, une fois qu'on prend de la distance, qu'on arrive un petit peu à saisir un peu, parce que moi, il me faut de la distance pour saisir la symbolique de chaque tableau, la phase de création est totalement différente de l'approche où on va chercher à trouver un symbole. Et donc, à partir de ce moment-là, si le tableau me parle, eh bien voilà, c'est parti, je le signe. Et puis voilà, il arrive de temps en temps qu'un tableau qui me plaise énormément, qui sort de l'atelier, il ne me parle pas. Du coup, il remonte dans l'atelier et il repart de zéro.
Ouais, d'accord. Alors, chaque tableau, en définitive, il raconte une histoire.
Ouais.
Et ça, c'est important. Vous avez besoin que ça raconte une histoire.
Oui, j'aime bien que ça raconte une histoire. Ouais, j'aime bien que ceux qui regardent le tableau la découvrent par eux-mêmes. C'est-à-dire que, bon, je mets des titres à mes tableaux, mais c'est peut-être quelque chose qui va disparaître parce que c'est souvent donner des clés à un tableau.
Ouais.
Donc, en général, dans mes expos, maintenant, je mets plus de titres. Si les gens veulent le savoir, je leur dis, mais j'aime bien que chaque personne puisse l'interpréter de sa façon. Et en général, c'est très différent, effectivement, entre ce que j'ai voulu raconter et ce que les gens perçoivent.
Ce que les gens y voient. Ouais.
C'est vraiment très différent par moment.
Mais c'est formidable de laisser libre cours à l'interprétation. C'est génial.
Ouais, bah, mes tableaux permettent ça. Mmh. Je dirais que quand je faisais des choses plus figuratives, quand j'ai démarré, ça ne laissait pas le choix à l'interprétation.
Ouais,
au tableau.
Voilà, ouais.
Un bateau est un bateau.
Mmh. Alors, on laissera tout à l'heure votre site en fin d'émission pour que les gens aillent voir toutes ces différentes périodes que vous avez regroupées par année. Il y a énormément de tableaux. On va parler un petit peu de l'expo Home Sweet Home que vous avez fait à La Grange sur Gap. Donc, les gens sont un peu comme moi. La Grange, c'est un peu caché à l'intérieur de Gap, on peut dire. Ça dépend de la mairie. C'est situé à quel endroit ?
Trouve la Placette, c'est un...
À côté de la rue Jean-Aymar.
Voilà, entre la rue Jean-Aymar et la rue Pasteur. Voilà, c'est ça. Il y a un petit passage là, avec un joli petit lavoir qui a été bien restauré d'ailleurs.
Et la grange aussi a été restaurée, c'est magnifique.
Et ça a été très très bien restauré. Ouais, c'est de très bon goût, c'est de bonne facture, il y a des beaux bois, c'est très peu cloisonné, et le peu de cloison qu'il y a, c'est vitré, on respire à l'intérieur, ça a été restauré avec goût et... Et je dois avouer que quand j'ai monté le projet de Home Sweet Home, c'était home comme maison et homme comme homme.
Oui, il y avait le jeu de mots.
Voilà, ça me parlait. Quand j'ai monté ce projet, je suis allé visiter, j'ai cherché un endroit où vraiment pouvoir faire une belle exposition, quelque chose qui raconte une histoire, quoi, de mes premiers tableaux jusqu'à ceux que je fais actuellement.
Ouais.
Et quand j'ai visité ce lieu que je ne connaissais pas, parce que pas beaucoup diffusé actuellement, mais je pense qu'il a vocation à être connu parce que c'est un bel endroit.
C'est magnifique, ouais.
Ah, cet endroit, ça m'a vraiment parlé. Et je me suis projeté aussitôt dedans et j'avais qu'une hâte, c'était de mettre en place.
Alors, on a pas parlé de votre première période, entre guillemets, qui était sur la culture japonaise et les geishas. Vous avez fait tout un ensemble de tableaux sur les geishas.
Ouais, ça a été des personnages qui prennent toute la place. C'était des femmes peintes en empreinte, dans un environnement totalement stérile, noir et mat. Et je peignais des femmes comme ça, avec une technique en empreinte, où je retirais de la matière et je les mettais tout en couleur avec de la calligraphie japonaise traditionnelle, de la feuille d'or. Et puis de la peinture, bien sûr. Et j'essayais de contraster le plus possible ces deux univers. Et c'était une mise en scène des geishas. C'était une période vraiment intéressante parce que j'ai beaucoup avancé. Et comme toute période, elle a connu une fin. Et donc, l'inspiration s'arrêtant sur ce sujet-là, je suis parti vers... J'ai continué mon chemin, quoi.
Mais tant mieux, ça fait différentes périodes et c'est superbe à voir. Hein.
C'est intéressant, il ne me reste plus beaucoup, mais je suis content de les revoir au quotidien et de les réexposer de temps en temps.
Alors, on va faire une petite pause musicale avec un morceau que vous nous avez amené, c'est Maker de Fink.
Ouais, Fink.
Donc, c'est un peu électro comme musique.
Ouais, d'habitude, il a une guitare sèche, mais il varie beaucoup les styles et en tout cas, c'est un super artiste. L'artiste des artistes, je l'appelle.
Station at 7 o'clock. You know what I like and that I like a lot. Let's go somewhere quiet where we can engage. Let's go somewhere rowdy where we can misbehave. Cause I'm a maker, baby. I'm a maker. Life is how you take. Walk you to work when you finish your drink. Life is how you take it. So on, so on, so on. Get me in for nothing so my night can go on, go on, go on. I'm a maker, baby. I'm a maker. Give me just a little bit. Give me an inch, you know I'm taking it. And all of this time we spent talking shit. Baby, it's all about making it, yeah. Cause I'm a maker, baby. I'm a maker. Whispered in my ear for me to meet her outside. You know that I'll wait cause I've been waiting all night. Everybody's leaving and we're moving back to mine. It's a beautiful evening for taking our time. Just a little bit. Give me an inch, you know I'm taking it. And all of this time we spent talking shit. Baby, it's all about making it. So I'm a maker, baby. Maker, baby. I'm a maker.
Rebonjour amis auditeurs de RCF La Peau Provence. Nous sommes toujours avec le peintre François-Régis Lemonnier. Mmh. Alors, on a vu que vous aviez eu différentes périodes, mais vous avez eu également un travail très différent avec une styliste où vous faisiez de la peinture sur ses vêtements.
Et oui, ça c'est rigolo. L'art, ça mène à plein de choses. Et dès qu'il y a des projets comme ça de travailler à plusieurs artistes, moi je prends. Et j'avais une amie qui faisait des défilés de mode avec des créations à chaque fois différentes. Elle a fait un défilé avec des robes de mariée. Et on s'est dit qu'on allait travailler ensemble sur une robe. Elle a fait le modèle en soie sauvage, une très belle robe. Et après, il a fallu que je trouve les mélanges adéquats pour que ça pénètre et que ça...
Que ça tienne, ouais.
Voilà, que ça tienne, parce que c'est pas évident de peindre sur de la soie sauvage.
Ouais.
Ça peut diffuser, enfin, il peut y avoir beaucoup de problèmes techniques. Donc, une fois que j'ai résolu le problème technique, ça a été un plaisir de peindre la robe et surtout de défiler avec ma création, ça, qui a beaucoup plu en plus.
Ouais, de voir sa peinture vivante, en définitive.
Ah, c'était vraiment super. Vraiment, le modèle a bien apprécié, tout le monde a apprécié.
Et qu'est-ce que vous aviez fait comme type de dessin?
C'était pas, il y avait pas mes personnages là, c'était vraiment un assemblage de couleurs et comme j'aime bien en général, j'ai une peinture qui coule avec des projections de temps en temps, ça faisait une robe de mariée pas si blanche que ça.
Oui. Pas avec des feuilles d'or quand même.
Non.
Alors, quelqu'un d'autre qui a été marquant dans votre parcours, c'est le sculpteur peintre Guy Ferrer.
Ouais, Guy Ferrer, j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au moment où j'ai commencé à peindre. Sur une exposition qu'il avait faite à Tours, j'ai vu ses sculptures enfin en vrai, des bronzes magnifiques, des grands formats magnifiques et un travail. Alors je le suis tout le temps. En général, quand je fais une expo en France, je vais le voir. Et ça m'a beaucoup beaucoup inspiré et ça m'a aidé à démarrer vraiment. Ça m'a aidé à décoller par rapport à ce que je voulais raconter quoi. Et après j'ai pris, j'ai une peinture différente de la sienne, mais je suis toujours aussi fan. Ouais.
Et du coup, ça vous a permis aussi d'exposer un peu partout. Mmh. Vous êtes pris au jeu. Vous avez exposé sur Paris, sur la Belgique.
Ouais, il y a une période comme ça où j'ai travaillé. Je travaille toujours avec la Belgique. J'ai une galerie en Belgique. J'avais trouvé une galerie à Miami également, donc mes tableaux avaient été là-bas. Bon, c'est ma seule expérience à l'international, mais sinon, j'ai exposé dans pas mal de coins de France. Mais souvent à Paris quand même, parce que à Paris, il y a un regroupement d'artistes qui est vraiment intéressant.
Oui, qui sera l'objet d'un projet dont on parlera tout à l'heure, sur une galerie internationale. Et à Paris, vous exposez à quel endroit?
Alors ça dépend, j'expose au Grand Marché d'Art Contemporain, c'est une manifestation qui a lieu sur Paris régulièrement, donc j'ai fait ça sur l'île des Impressionnistes une année, et puis Place de la Bastille, c'est un peu plus récurrent, et je pense y retourner d'ailleurs fin d'année, au milieu d'année 2015.
Ouais, voilà, ouais. Mm. Donc c'est le GEMAC.
Voilà, le GEMAC, comme on dit, la FIAC comme la SIAC, il y a beaucoup d'abréviations.
Alors, vous referez également une expo à Lagrange, puisque le coin est merveilleux.
Ouais.
Donc, certainement au printemps 2015.
Ce sera à courant d'année 2015. Les dates ne sont pas arrêtées, mais vu que l'endroit est bien, une fois que j'aurai réussi à caler des dates avec la mairie et à monter le dossier, je mettrai ça sur mon site internet.
Voilà.
Ouais. Ça permettra de diffuser un peu.
Et vous prévoyez également une expo au Salon d'Art Contemporain, le SIAC,
voilà.
Qui lui est à Marseille, je crois.
À Marseille, c'est ça. Ah ouais, ça s'est prévu pour le mois de mars. Je crois que c'est mi-mars. Je crois que c'est un salon d'art contemporain qui a lieu sur 4-5 jours. Et bon, j'ai jamais fait cette manifestation-là, mais ça a l'air d'être d'un bon niveau, donc je vais la tenter.
Et c'est situé dans le centre de Marseille?
Oui, c'est Parc des Expositions.
On pourrait parler du projet de Galerie Internationale qui, lui, s'appelle Carré d'Artiste.
Voilà, ça, c'est une galerie qui a un concept très particulier et qui ne vend que des formats carrés, qui a des galeries dans le monde entier, dans pas mal de capitales. Moi, je crois que c'est dans 15 pays au total. Et en fait, si je travaille avec eux, c'est une espèce de book de plusieurs artistes. Et les galeries, après, choisissent dans le book quel artiste elles vont exposer sur une période donnée.
Et dans l'éventail d'artistes, il n'y a pas que des peintres?
Il n'y a pas de support numérique. Non, c'est surtout de l'art pictural, donc peinture et photo, technique mixte, après, il y a de tout. Et puis, il y a de toutes les sensibilités artistiques, hein, du figuratif à l'abstraction. Et puis, ça passe par tous les styles. Et moi, j'ai un style qui devrait bien parler aux gens de carré d'artiste, je pense.
D'accord. Et pourquoi la forme carré?
Faudrait leur poser la question. Mais en tout cas, moi, c'est un format... Maintenant, c'est presque mon format de prédilection. Je trouve ça très intéressant de peindre sur carré.
Ça apporte quoi?
Alors là,
Là, on entre dans les arcanes de la création.
Ouais, là, la réponse n'est pas évidente. Le choix du format, on va dire que c'est à l'instinct, si vous voulez, quand je pris de frénésie créatrice, les tableaux s'enchaînent, je les peins, ils avancent, ainsi de suite, et voilà, ça s'explique pas, malheureusement.
Moi, j'avais tendance à penser que le format rectangulaire est plus cinéma, donc peut-être plus visuel, plus accessible.
Peut-être, ouais.
Carré, ça me semble restreindre un peu la création, non?
Non, au contraire, je trouve que c'est très difficile de choisir quand un tableau doit être horizontal en paysage ou en portrait en vertical,
ouais.
Alors que le carré, il n'y a pas ce problème-là.
Oui, d'accord, il n'y a plus à choisir. Alors, moi, j'aimerais parler un peu du tableau Art Wesenhauer 2, qui est du breton.
Voilà.
Donc, les gens qui iront voir sur le site, ils vont être confrontés, comme moi, à la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire, ce texte?
Art Wesenhauer, ça veut dire l'arbre d'or en breton. Et c'est un thème, l'arbre d'or, qui m'a beaucoup parlé, puisqu'il y a un arbre recouvert de feuilles d'or en forêt de Couette-Quidan, au cœur de la Bretagne.
Ah oui, ça, on ne le sait pas, ça, oui.
Non, il y a toute une histoire, et bon, je ne voulais pas représenter forcément cette forêt, je ne voulais pas représenter vraiment un pays, mais j'aime beaucoup la symbolique de l'arbre d'or, et j'aime beaucoup ces personnages en méditation autour de cet arbre-là. Ça représente beaucoup de choses. Après, le lieu, dans ma peinture... Il n'y a pas de lieu particulier. Vraiment, on peut s'imaginer au pays des Touaregs, on peut s'imaginer au bord de la mer, peu importe, hein, chacun a libre cours à sa représentation.
On peut s'imaginer dans l'espace. Il y a des tableaux qui font penser à l'espace, qui font penser à une planète, genre Mars, par exemple. Il y a des tableaux avec des nuances de rouge. Ça fait penser un petit peu à ça. Pourquoi est-ce qu'il y a cet arbre d'or dans une forêt de Bretagne?
En forêt de Couette-Quidan, il y avait eu, il y a quelques années déjà, un grand incendie qui avait décimé une grande partie de la forêt. Et en hommage un peu, ne pas oublier, sur un tronc calciné, il y a un artiste qui l'a recouvert de feuilles d'or avec des petites stèles, des petites pierres autour. Et voilà, cette symbolique, pour moi, elle est juste parfaite. Ces petites pierres autour, pour moi, ça représentait des petits êtres. Il y a beaucoup de légendes en Bretagne, sur la forêt.
Vrai.
Des petits personnages qui se transforment en pierre la nuit.
Oui, des petits elfes
voilà.
Qui viennent se matérialiser. Bon, c'est sur cette poétique qu'on va conclure l'émission. On va laisser votre site internet, Le Monnier Artiste Toulier, Le Monnier, LEMO2NIER, @free.fr. Merci, monsieur Le Monnier, d'avoir ouvert vos fenêtres. Sur votre site, il y a une personne qui dit que ce sont des voyages au cœur de nous-mêmes.
Exactement. Qu'est-ce qu'elle parle bien, cette Lydine Guessant?
Elle dit aussi que ce sont des sourires sur nos vies. Donc, on va rester sur ces sourires. Merci d'être venu à notre micro.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Focus. Gros plan sur les artistes des Alpes du Sud. Gilles Berger. Focus. L'art en grand.